Salut Daniel, c'est Steph de Montpellier. Je le fais, la Montpellier portage. Hein. Je suis dans la rue en train de marcher pour aller en rancard. Et il se passe quoi? Il se passe que dalle. Pas grand chose. Et je viens d'écouter la série sur les sur le répondeur, pas encore fini, et moi j'ai dû partir. Et c'est difficile de pas se mettre à chialer en écoutant, parce qu'on se dit que c'est incroyable. Ils sont tellement peu nombreux et tellement forts, et nous on est tellement nombreux et tellement impuissants. C'est ce paradoxe-là qui est difficile à encaisser. C'est vraiment incroyable.
Je suis Fabien et j'ai beaucoup pleuré en entendant les messages de ce mois de mai 2003 et on est toujours autant dans la merde.
Bonjour cher Daniel, je ne suis pas sûre que ton émission d'aujourd'hui nous ait fait tellement de bien. Je l'ai trouvé prématuré, le chagrin de l'échec est encore trop cuisant et la machine à broyer trop présente. Elle continue d'avancer, nous laissant pantelant des bêtises devant cette reculade programmée. Je me suis surprise à pleurer et ce d'autant plus qu'il m'était donné d'entendre des intervenants défendre cette récession à l'abri de la certitude que les gavés seraient non point les instigateurs de ce plan de destruction d'une société plus équitable, mais bien les généreux humanistes utopistes, il faut le dire, qui défilaient dans la rue. S'il te plaît, Daniel, fais-nous vite une émission bonheur pour supporter les luttes à venir. Merci, Hélène de Nîmes. Au revoir.
Eh ben voilà, pour une fois, je peux écouter là-bas si j'y suis. Je suis cloué au lit, alors c'est bon. Alors j'entends, c'est bien, c'est sympathique, les nostalgies de l'année passée. Et puis je bouquine aussi, puis je tombe sur cette phrase de Debord dans son célèbre bouquin. À l'acceptation béate de ce qui existe peut aussi se joindre comme une même chose la révolte purement spectaculaire. Ceci traduit le simple fait que l'insatisfaction elle-même est devenue une marchandise dès que l'abondance économique s'est trouvée capable d'étendre sa production jusqu'au traitement d'une telle matière première. Et voilà, consommons de lentilles. Allez, continuez, ça vaut quand même le coup, ça fait du bien.
Nous sommes le 5 janvier 2004, depuis 4 jours, 180 000 personnes sont privées d'acédique. Et Daniel Mermet, polémique, avec Philippe Val. Merci pour tout, au revoir.
Pense sur le bec, pas tort, vous n'avez pas tort, on recommencera plus, je ne recommencerai plus, un abus de micro répondant à un autre abus de micro. On tourne la page et on commence cette année, mais alors le coup du rétroviseur sur mai dernier, chagrin de l'échec, nous sommes pantelants débêtus, dit cette auditrice, oulala, quel... Oui, ça commence un peu du pied gauche, hein, cette histoire de 2004. Mais, demande cette auditrice aussi, donnez-nous de quoi supporter les luttes à venir, comme si on avait un tel pouvoir. Nous n'avons que les tout petits moyens de donner un peu de grain à moudre à qui veut l'entendre, le déguster et le partager. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui avec l'équipe du Monde Diplomatique qu'on retrouve comme chaque mois depuis on ne sait plus combien d'années. Et puis derrière moi, vous entendez les rumeurs de l'Inde parce que mardi prochain, ce sera le 13. Eh bien, nous partons pour un long voyage à travers l'Inde, à l'occasion, enfin en écho, disons, avec le Forum Social Mondial qui va se tenir à partir du 16 dans la, j'allais dire, la bonne ville, non, de Bombay, qu'on dit Mumbai aujourd'hui, mais disons dans la grande ville de Mumbai. Donc ça, ce sera à partir de mardi prochain, le 13, et là aujourd'hui, le Monde Diplomatique, avec évidemment, puisque ça fait 10 ans, on va pas dire un hommage, mais enfin un salut à Marcos, au sous-commandant Marcos et à la lutte zapatiste. C'était exactement il y a 10 ans. On va évoquer tout cela avec le Monde Diplomatique, avec bien sûr Amonet et Maurice Lemoine. Et puis on va retrouver la voix du sous-commandant Marcos que nous avions rencontré il y a quelques années, et c'était en 2001. On va donc le retrouver pour une petite séquence. Auparavant, d'autres messages sur le répondeur de la base où j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Oui, bonjour à toute la belle équipe de la base où j'y suis. Voilà, c'est une peine à jouir qui vous appelle. J'aimerais bien essayer d'expliquer au petit rigolo, auteur de l'expression que j'ai entendue sur le répondeur, qui a parfois des amalgames qu'on fait sans vouloir être méchant. voilà, j'ai 42 ans, ça fait 25 ans que je peine à jouir. J'ai beaucoup essayé, les sages et les rangés, les tout fous, les artistes, les intellos, les primaires, les instables, les marocains, les africains, les amoureux, les indifférents, la psychanalyse pendant 10 ans. Ça m'empêche pas de sourire, ni d'aimer la liberté, et depuis 25 ans qui n'arrive pas à me faire jouir, j'aime toujours autant les hommes. J'ai même essayé les jouisseurs, mais ceux-là se sont sauvés en courant parce que les peines à jouir, c'est un peu comme les personnes handicapées, ça dérange. Mais Merma, il a dit, faut oser, il a bien raison cet homme-là. Moi, je suis pas dérangée. Je vis avec ce problème central à résoudre, ce point d'interrogation frustré dans mon ventre, et cette envie que j'ai d'aller jouir dans la cour des grands. J'aimerais bien en parler avec mes petites sœurs, les capables et puis les manches. Mais je crois bien que les amalgames du genre de cette expression bien connue, les mâles baisés, ne me clouent plus souvent le bec que je ne le voudrais. Et pourtant, je vous défie bien en me voyant de deviner que j'en suis, croyez-moi, ça se voit pas du tout. Résultat d'une pensée occidentale qui culpabilise l'épanouissement et le plaisir, j'ai envie de vous dire, j'existe, je travaille à en sortir, et vous, les bien baisés, je vous demande pour le moins de ne pas me mettre de bâton ni dans la tête ni dans le cul, que j'ai bien assez à faire avec ceux que je me suis collé moi-même. Voilà. C'était Françoise de Nogent qui se sent beaucoup mieux.
Parce qu'il faut bien repartir pour une année, et qu'à tout seigneur, tout honneur, ce message s'adresse aux journalistes de France Inter qui ont officié mardi à l'antenne. J'aimerais bien qu'ils m'expliquent ce que signifie « force vive ». Parce que contrairement à eux et à Guy Birenbaum, je ne suis pas un initié, et surtout pas en relation étroite avec les ministères ou le MEDEF. J'ai donc des questions à poser aux initiés de France Inter. Est-ce que Noroxo est une force vive? Est-ce que Feu Metal Europe fut une force vive? Est-ce que Total, voire AZF, est ou fut une force vive? Est-ce que Flash Airline est une force vive? Et est-ce que le groupe Accor est une force vive? Et dans ce cas, qu'en pense son personnel de nettoyage? Et sont-ce des forces vives que Daewoo, Enron, Exxon? Et je me demande si Valeo est une force vive pour ses sous-traitants qui l'étranglent. C'est vrai que Valeo, c'est aussi un peu Seyère. Pour force vive d'ailleurs, c'est sûrement auprès de lui que je devrais m'initier. Pour moi, les forces vives, c'est celles de ton répondeur, Daniel. Elles étaient dans la rue en 2003. Et j'espère qu'elles voteront avec la même détermination et le même cœur au printemps prochain. Allez, bonne année là-bas si j'y suis.
Salut les forces vives, c'est Daniel Mermel, à Passy J'y suis avec le monde diplomatique.
Flight number 2, arriving from... Sapatavive! Sapatavive, vive! Sapatavive, vive!
Fuimos el síntoma de un proceso de resistencia mundial y nacional.
Nous sommes le symptôme d'un mouvement de résistance nationale et internationale.
A una lógica que se presentaba como implacable, la de la globalización.
A une logique qui avait l'air implacable, celle de la globalisation.
Y que implicaba la destrucción de grandes sectores de la humanidad y de grandes riquezas de la.
Y que impliquait la destrucción de grandes sectores de l'humanité et de grandes richesses dans le monde.
Así responde el subcomandante Marcos a Daniel Mermé, gran reportero de la estación France Inter que fue hasta la selva chapaneca en México para realizar esta entrevista. Hemos conservado las preguntas de Daniel Mermé por considerar que eran importantes para ver la relación del guerrillero con los medios de comunicación internacionales. Daniel Mermé entrevista pues al subcomandante Marcos.
¡Viva la comandancia general del ejército zapatista de liberación nacional!
Nous luttons pour le travail, pour la terre, pour un toit, pour l'alimentation, pour
la santé, pour l'éducation, pour l'indépendance, pour la liberté, pour la démocratie, pour la justice et pour la paix, nous ne cesserons pas de nous battre avant d'avoir obtenu satisfaction et formé un gouvernement libre et démocratique pour notre pays. C'était il y a 10 ans la première déclaration du sous-commandant Marcos à la planète tout à fait éberluée, à son pays, au Mexique, tout à fait étonné. C'était il y a 10 ans, un petit peu plus de 10 ans, c'était le 1er janvier 1994, et c'était le premier mouvement symbolique contre la globalisation. C'est ainsi que Ignacio Ramonet qualifie ce qui allait quand même enflammer les imaginaires, faire repartir quelque chose dans le monde et au Mexique également. Donc on va évoquer ces 10 années telles que l'équipe du Monde diplomatique avec Maurice Lemoine et Ignacio Ramonet. Mais auparavant, on va revenir sur cet entretien que le sous-commandant Marcos nous avait accordé dans le Chiapas à la Realidad avec Françoise Escarpi, qui était notre très habile traductrice.
Ce que vous aviez inventé en 94, c'est de dire « nous ne voulons pas le pouvoir ». Vous avez surpris en disant « nous ne voulons pas le pouvoir ». Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui?
Nous pensons que le pouvoir n'est plus dans les États nationaux.
El poder está en los grandes centros financieros.
Le pouvoir est dans les grands centres financiers.
En ese sentido, el problema no es quién está en el poder.
C'est pour ça que le problème, ce n'est pas qui est au pouvoir.
Sino la relación del poder con los ciudadanos.
Sino la relación del pouvoir avec les citoyens.
En ese sentido, nosotros pensamos que la lucha por el poder político.
C'est pour ça que nous pensons que la lutte pour le pouvoir politique.
Es la lucha por una mentira.
Est une lutte pour un mensonge.
Y finalmente, lo que vamos a hacer es cambiar una visión del mundo por otra visión del mundo.
Et ce que nous voulons, ce que nous allons faire, c'est changer une vision du monde contre une autre vision du monde.
Une hégémonie pour autre hégémonie.
Une hégémonie pour une autre hégémonie.
Tu dis que ton mouvement est un mouvement parmi d'autres. On a parlé d'archipel, des résistances. Si c'était des îles, qu'est-ce que tu verrais comme autre résistance avec lesquelles tu peux t'identifier ou que tu peux rejoindre?
Fundamentalement, en le cas d'Europe, con la resistencia de los migrantes.
Fondamentalement, en Europe, la résistance contre le cas des immigrants.
Contre los que se ha construido una política de racismo y de segregación muy fuerte.
Qui subissent une politique de ségrégation et de racisme.
Tu veux parler des sans-papiers?
En concreto, el movimiento sans-papiers en Francia. Y en Europa, pues.
Fondamentalement, les sans-papiers en France et en Europe.
Pues, finalmente, se trata de que la gente se arrepienta de su color, de su raza y de su país de origen.
Tout ça, c'est destiné à ce que les gens aient honte, se repentent de leurs origines, de leurs couleurs.
Finalmente, l'acte de nacimiento.
Finalement, leur acte de naissance.
Es un crimen.
Est un crime.
Y es perseguido como tal.
Et c'est comme ça que on le poursuit pour cela.
El otro movimiento con el que nos identificamos es el de homosexuales, lesbianas, transexuales.
L'autre mouvement avec lequel nous identifions, c'est celui des homosexuels, des lesbiennes et des transsexuels.
Y finalmente son perseguidos y segregados por su preferencia sexual.
Qui sont également marginalisés pour leur préférence sexuelle.
Se les ha construido una imagen de criminales.
On les considère qu'on leur a fait une image de criminels.
Y una falsa imagen de minoría.
Et on les a considérés que faussement comme une minorité.
En el mundo actual esa es la gran trampa. Todos los que se rebelan y son diferentes son minorías.
En fait, c'est un grand mensonge dans le monde. Tous ceux qui se rebellent sont considérés comme des minorités.
Y todo el que se conforma y que es cínico es la mayoría.
Et tous ceux qui sont d'accord et qui sont cyniques sont la majorité.
La question qui revient toujours dans les conversations sur toi, sur ton mouvement, sur le personnage de Marcos, c'est la récupération ou la radicalité. Est-ce que tu veux parler de ça?
Y nosotros pensamos que la alternativa es falsa.
Nous pensons que c'est une fausse alternative.
Entonces, finalmente, detrás de lo que se llama radicalización, hay otro fundamentalismo.
Parce que derrière ce qu'on appelle radicalisation, il y a un autre fundamentalisme.
Hay otra minoría queriendo hegemonizar el mundo.
Y hay otra minoría que quiere ser hegemónica en el mundo.
sin dinero, pero con las mismas intenciones.
Sans argent, mais avec les mêmes intentions.
Y del lado de la absorción o de la recuperación.
Du côté de la récupération ou de l'absorption.
Hay una minoría que sí tiene dinero.
Il y a une minorité qui a de l'argent.
Y que solo te acepta si eres parte de ella.
Et qui ne t'accepte que si tu es partie d'elle-même.
Donc ça t'ennuie pas que votre lutte soit récupérée, soit utilisée, par exemple, à moderniser le capitalisme.
Non, es imposible.
C'est impossible.
Mais pourquoi c'est impossible?
Non, no es posible porque nosotros estamos planteando algo que lesiona el nudo de l'argumentación de la globalización.
C'est impossible parce que nous, ce que nous proposons, ça blesse le nœud même de cette problématique
en
de
quoi,
globalisation.
En quoi? En quoi?
Es este, el nudo de la argumentación del neoliberalismo es la gente vale si puede comprar y si puede producir.
Parce qu'en fait on dit c'est que les gens ne valent que s'ils peuvent acheter et produire.
Nosotros decimos la humanidad no puede valorarse en términos de mercado.
Et nous disons l'humanité ne peut pas être valorisée en termes de marché.
Sino de dignidad, conocimiento, capacidad.
Mais bien de dignité, de connaissance et de capacité.
Hace mucho tiempo que esos eran valores humanos.
Il y a très très longtemps que tout ça c'était des valeurs humaines.
Ya no.
Mais plus maintenant.
¡Viva todos los países del mundo!
Alors on continue avec le numéro de janvier du Diplo. Là, je vois sur une étagère une petite poupée qui représente Marcos ou qui représente...
Qu'on a acheté ensemble lorsque nous étions au Chiapas.
Et ça nous amène à un des papiers de ce mois-ci dans le Diplo sur 10 ans. 10 ans de Marcos, 10 ans de ZLN, Maurice Lemoine.
On est maintenant 10 ans après 94, j'allais presque dire que reste-t-il du zapatisme. Je dis que reste-t-il du zapatisme parce que chez ce qu'on appelle les zapatisants, c'est-à-dire qui sont les sympathisants du zapatisme ici en Europe, on a un petit peu oublié, hein, on a un petit peu oublié le Marcos et le Chiapas parce que tout simplement l'intérêt s'est déplacé en particulier vers Porto Alegre. Hein, c'est-à-dire que là où hier le symbole de l'antimondialisation c'était Marcos et les zapatistes, il y a eu 10 ans et puis le centre d'intérêt s'est déplacé avec évidemment un inconvénient pour les zapatistes. On connaissait mieux les zapatistes en Europe qu'en Amérique latine, tout simplement parce que Marcos et les siens ne peuvent pas sortir du Mexique. Ce sont des clandestins, ce sont des gens qui se déplacent avec un passe-montagne. Et autant un Evo Morales en Bolivie, qui est le leader des indigènes, peut se déplacer, peut aller au Venezuela voir Chavez, ou peut venir en Europe, on connaît finalement assez peu le zapatisme, et y compris nos amis latino-américains connaissent assez peu ce mouvement. 10 ans après, si on fait un bilan, on va évidemment faire un bilan rapide, hein, on peut pas résumer 10 ans en quelques minutes. On peut dire une chose, c'est que on a présenté le zapatisme comme le premier mouvement altermondialiste, hein, en Amérique latine. Là encore, il faudrait vraiment nuancer, parce que si je prends l'exemple de 1989, le soulèvement de la population à Caracas, c'est contre un ajustement structurel du FMI. Les luttes en Amérique centrale dans les années 80, c'est aussi un modèle néolibéral qui est en train de s'installer. Donc on aime bien les images. C'est vrai qu'on peut garder l'image de la première révolte anti-mondialisation, mais c'est un tout petit peu facile. Les zapatistes ont largement participé à ce qu'on pourrait appeler le processus de démocratisation du Mexique. Hein. Les Mexicains ont eu plutôt pendant 70 ans un parti unique, le Parti révolutionnaire institutionnel. Et c'est vrai que si ce parti abandonne le pouvoir en 2000, c'est en grande partie aux zapatistes qu'on le doit. Alors, revers de la médaille, c'est qu'évidemment, ça n'a pas été pour mettre en place un gouvernement de gauche, ou un gouvernement progressiste, ou un gouvernement adepte de la transformation sociale, mais que malheureusement a pris le relais un gouvernement encore plus à droite, si je dirais presque, hein, le parti d'Action Nationale de Vicente Fox. Cela étant, si on regarde dans la durée, et peut-être que dans 50 ans, les historiens, en se retournant sur cette période, verront qu'effectivement, le zapatiste a eu une part très importante dans la sortie de ce parti unique, hein, qui était un petit peu sur le modèle de l'Union soviétique, quand même, il faut le dire. Sur le plan intérieur, on a les limites du mouvement, parce qu'il y a des limites à ce mouvement. C'est d'une certaine manière son échec à s'implanter sur la scène nationale. Hein, ça tient à plusieurs raisons. On peut dire que ça tient, c'est l'aspect négatif du côté positif de Marcos, à son habitude de lancer des piques un peu à tout le monde, ce qui fait qu'il s'est pas fait que des amis, y compris dans la gauche mexicaine. Ça tient au fait aussi de ce qu'on appelle l'indéfinition du mouvement, qui en même temps est sa force. Hein, c'est-à-dire qu'on a un mouvement qui ne prétend pas prendre le pouvoir, mais évidemment face à des gens qui dans la société veulent changer le modèle, ça provoque une certaine incertitude, un certain trouble. Donc le zapatisme au Mexique jouit d'une sympathie évidente, il est une espèce de référence morale et dont les candidats à la présidentielle devront tenir compte. En même temps, ça n'est pas une force politique en tant que telle. Et puis, il faut rajouter, parce que c'est une réalité, que pour les Mexicains, ça reste un mouvement indigène, et que là, évidemment, on rentre dans la vieille histoire du Mexique, hein, avec ce clivage, cette cassure entre indigènes, non indigènes. Après, le mouvement, évidemment, s'est heurté au refus du pouvoir d'accepter toute réforme, puisque on avait eu en 1996. Ce qu'on a appelé les accords de San Andrés, qui étaient des accords sur les cultures et droits des indigènes, qui avaient été signés avec ce qu'on appelle la COCOPA, Commission de Concorde et de Pacification, dans lequel étaient représentés des membres de tous les partis politiques mexicains. Un accord a été signé, qui était, là aussi il faut préciser, quand on parle d'autonomie indigène au Mexique, il ne s'agit pas de balkaniser le Mexique, il ne s'agit pas de mouvement indépendantiste, il ne s'agit pas de mouvement ethniciste, y compris quand on parle d'autonomie, on sait que culturellement, dans les communautés indigènes, il y a des pratiques qui sont finalement très archaïques, très séculaires, et que là, dans cette autonomie telle qu'elle était imaginée, par les zapatistes en particulier, ils insistent beaucoup là-dessus, il s'agit pas de remettre en cause des droits fondamentaux comme les droits des femmes. Il s'agit donc d'une avancée réelle. Le gouvernement s'est refusé à mettre ces accords en œuvre, et on est actuellement dans une période dans laquelle on pourrait dire qu'il y a un repli du zapatisme sur ses bases. On est en train, à partir de ce qu'on appelle les caracoles, qui en espagnol signifie escargot, de mettre en place, enfin les zapatistes sont en train de mettre des conseils de gouvernance, et en train d'appliquer silencieusement, doucement, dans 30 municipios autonomes, les municipios c'est des municipalités au sens large, l'autonomie que le gouvernement a refusé de mettre en place. C'est-à-dire que c'est en train de se mettre doucement en place un pouvoir parallèle, dont nous ne pouvons pas dire aujourd'hui quels vont être les débouchés, qui intéresse beaucoup d'autres communautés indigènes ailleurs dans le Mexique, et qui pour le moment laisse le gouvernement songeur. On n'a pas encore eu de réponse officielle du président Fox.
Là, on parle du mouvement zapatiste au Mexique, mais sur le plan international, sur la scène internationale, on parlait d'Internet tout à l'heure, il y a une figure qui est apparue, celle de Marcos, qui a rallumé les imaginaires politiques, la contestation et une certaine riposte. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, où en est cette riposte aujourd'hui? En quoi est-ce que... Quel a été le rôle de ce personnage et de ce mouvement?
Moi, je pense que Marcos... Je veux dire, il a d'une part le rôle national qu'a indiqué Maurice, et il est très important, mais il fait partie de ceux qui ont, disons, allumé la flamme de ce
qu'on appelle
l'altermondialisation. Il est indiscutablement un de ceux qui, alors que le mot globalisation n'était pas encore utilisé, disons, avait déjà... susciter les rassemblements, on s'en souvient, intergalactiques contre le néolibéralisme, qui était dans une certaine mesure la répétition générale de ce qu'a été Porto Alegre. D'autre part, sa conception, par exemple, de la lutte qui conduit non pas à prendre le pouvoir, mais à prendre la parole, correspond bien à une idée que l'on a vue se développer dans le mouvement altermondialisation, qui n'a pas vocation à s'organiser pour construire un dogme, en quelque sorte, qui remplacerait un autre dogme. Donc il a eu une très grande importance. Et peut-être que la difficulté de Marcos, lui-même, en tant que producteur, en quelque sorte, de théorie et de réflexion, c'est d'embrayer sur une situation qui en est maintenant là où elle est, c'est-à-dire 10 ans après, avec déjà ayant en quelque sorte digérer, élaborer, développer des thèses qui étaient très stimulantes au départ, qui ont pu lancer ce mouvement, mais qui aujourd'hui, évidemment, ne répondent pas à la phase actuelle.
Bernard Cassin ?
Oui, je pense que le mouvement zapatiste tel qu'il est apparu en 94 a eu une influence indirecte sur, comme l'a dit Ignacio Ramonet, sur le lancement du mouvement des forums sociaux mondiaux. Mais aucune conséquence directe. Les Mexicains, les zapatistes, étaient totalement absents à Porto Alegre en permanence. Mais il y a une sorte de convergence parallèle entre les deux phénomènes. Ce qui est frappant dans ce mouvement, c'est qu'il conjugue à la fois la défense des droits des indigènes et le drapeau mexicain. Il ne faut pas oublier que les défilés de Marco se font derrière un immense drapeau mexicain. Donc, ils pensent mexicains et ils pensent également indigènes. C'est une combinaison assez rare, même, je dirais, unique.
Ils parlent de patrie, ils parlent du cœur de la patrie en permanence.
Absolument, absolument. Et alors, ça, c'est un vocabulaire qui n'est pas si fréquent chez les séparatistes, les autonomistes ou les nationalistes. Et cette synthèse est exceptionnelle. Et il a permis, par cet exemple, parce que si Marcos est peu connu au Mexique, finalement, de l'intelligentsia de gauche, et s'il n'a eu qu'une influence que très indirecte sur Porto Alegre, en revanche, la défense des peuples indigènes a permis, elle a essaimé dans l'ensemble de l'Amérique latine, et les peuples indigènes sont, eux, très présents dans les processus du forum social. Vous avez pu le constater lorsque vous étiez à Porto Alegre, ils sont partie prenante de ce mouvement. Et on essaye au niveau global de conjuguer les deux choses. Les petites patries indigènes, la grande patrie de la terre, et puis les patries intermédiaires.
Maurice Lemoine, oui, dernier mot.
Non, mais juste deux minutes, promis. Non, qu'est-ce qui a changé depuis 1994 et l'apparition de l'armée zapatiste de la Libération Nationale? C'est qu'à l'époque, on peut dire, en schématisant, que Marcos et les zapatistes sont tout seuls à dénoncer la mondialisation. Depuis, on a l'apparition de Hugo Chavez au Venezuela, on a Lula, quelle que soit sa politique, sur lequel on peut avoir des doutes aujourd'hui, mais qui, pour le moment, en tout cas, demeure un espoir. On a, y compris, une bonne surprise, Kirchner en Argentine, le président Kirchner. On a l'apparition d'un leader qui s'appelle Evo Morales en Bolivie.
La perspective de que la gauche gagne en Uruguay aux élections.
Et donc on peut dire que l'apparition du zapatisme marque le point de départ, le point d'infléchissement d'une évolution profonde en Amérique latine qui voit de plus en plus contester le modèle néolibéral.
Hermanos y hermanas, bienvenidos a las montañas del sureste mexicano. Queremos presentarnos. Nosotros somos el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Dentro de esas montañas construimos un ejército. Abajo, en las ciudades y en las haciendas, nosotros no existíamos.
Continue autour de ce numéro de janvier avec un papier qui n'est pas dans le diplôme, qui n'est pas un papier d'ailleurs.
Ça, c'est-à-dire que dans le numéro de janvier, on a le texte d'un discours d'Howard Zinn, qui est l'auteur que vos auditeurs connaissent d'un superbe ouvrage qui est l'histoire populaire des États-Unis. et qui rappelle à ceux qui l'auraient oublié que soutenir la politique des dirigeants américains, ça n'est pas faire preuve d'américanisme, mais c'est faire preuve d'anti-américanisme. Parce que souvent, cette politique a été particulièrement dure pour le peuple américain. Et ce sont en général ceux qui défendent le peuple américain qu'on taxe d'anti-américanisme dans le discours dominant. Et je crois que dans ce texte, Howard Zinn rappelle un certain nombre de choses qui sont intéressantes dans le contexte de l'élection qui s'annonce, à la fois le rôle des financements politiques qui transforment les deux principaux partis en deux ailes d'un parti des affaires, d'un parti du business, et aussi l'utilisation par la droite de la thématique nationale, de l'intérêt national, alors que naturellement elle défend souvent bien autre chose que l'intérêt national, mais l'intérêt de classe sociale particulière, et cette idée qu'aux États-Unis, il est interdit de parler de classe sociale. Je me souviens, j'étais aux États-Unis en 1988, lors de la campagne du père, donc de l'actuel président, et il s'opposait aux démocrates en disant ce démocrate, à l'époque il s'appelait Michael Dukakis, ce qu'il vient de faire est scandaleux, il a parlé de classe sociale aux États-Unis. Nous n'avons pas de classe sociale aux États-Unis, nous sommes tous des Américains pareils. Qu'est-ce que c'est que cette conception européenne? Qu'est-ce que c'est que cette conception européenne? Je trouvais que c'était assez...
Pas française
encore. Non, il disait pas française, mais il disait européenne. Il y avait quand même quelque chose d'assez admirable, parce que je crois que fondamentalement il était assez sincère. La notion selon laquelle, comme il y a mobilité, ou en tout cas comme on prétend qu'il y a mobilité sociale aux États-Unis, qu'on peut passer des haillons à la fortune, il n'y aurait pas de classe sociale, est une notion qui est assez puissante dans l'esprit de bien des Américains, qui fait que d'ailleurs une très grosse majorité des Américains se proclament comme appartenant aux classes moyennes, même quand ils appartiennent aux catégories les plus populaires et à la classe ouvrière. Mais même les gens qui sont des ouvriers, des manœuvres, se proclament classe moyenne. Donc cet article situe en quelque sorte le contexte de ce pays qui va connaître des élections importantes cette année, des élections qui commencent très tôt. Parce que pourquoi en parler en janvier? Parce que dès le 19, il va y avoir la première consultation américaine, et dès le 2 mars, c'est-à-dire dans très peu de temps, la majorité des États auront voté. Et on saura qui sera le candidat démocrate. Puisque naturellement, la question de savoir qui est le candidat républicain ne se pose pas. Ce qui est d'ailleurs un énorme avantage pour les républicains. Ils démarrent avec un avantage qui est significatif. Bush est le seul candidat dans son camp. Et lorsque le président sortant est le seul candidat dans son camp, il est très rare qu'il perde. Les précédents qu'on peut avoir à l'esprit sont ceux de Ronald Reagan en 84, qui a été réélu assez triomphalement, et Clinton en 1996, qui lui aussi a été réélu assez largement. Donc il n'y a pas d'exemple d'un sortant qui soit battu dans de telles conditions, et ça favorise évidemment chez le sortant la possibilité de tenir dès le départ un discours plutôt ouvert, consensuel, parce que vous n'avez pas à batailler contre les marginaux de votre camp sur des questions relativement accessoires. Par ailleurs, vous disposez d'une somme considérable. Bush va disposer d'environ 200 millions de dollars qu'il peut consacrer d'ores et déjà à la campagne des élections générales. Ce qui n'est pas non plus un mince avantage, alors que les démocrates, là, qui en ce moment sollicitent des fonds, consacre l'essentiel de ses fonds à détruire d'autres démocrates, qui sont leurs concurrents lors des élections primaires. Pendant ce temps, Bush a donc cette image rassembleuse et une certaine popularité. Il est gavé d'argent. Il a d'ailleurs annoncé depuis plusieurs mois qu'il renonçait au financement public de sa campagne, qu'il préfère ne pas avoir de financement public de sa campagne pour pouvoir dépenser autant qu'il le veut. Puisqu'aux États-Unis, il y a une espèce de corrélation entre le plafonnement de vos dépenses et le financement public de votre campagne. Donc comme il ne veut pas que ses dépenses soient plafonnées, il renonce au financement public de ses campagnes, sachant que les groupes industriels qu'il a comblés davantage fourniront bien plus que ce que pourrait lui procurer le gouvernement fédéral. Et alors là, il y a un élément intéressant, qui est le fait que le candidat démocrate lui-même, Howard Dean, a fait le même choix. Ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle, les deux candidats...
Pas confondre Howard Zinn et Howard Dean.
Dean, qui est l'un des candidats démocrates, dont on parlera peut-être un peu tout à l'heure, qui semble avoir une certaine popularité, a lui aussi levé tant de fonds qu'il souhaite ne pas être soumis aux règles du plafonnement de ses dépenses publiques. Donc on a tout un système de financement des campagnes aux États-Unis, et on sait à quel point c'est un gros problème, qui en fait a largement volé en éclats, parce que les deux candidats ont décidé de ne pas se soustraire à la moindre contrainte et de dépenser autant qu'ils le voulaient. Et dernier élément qui joue en faveur du président, de l'actuel président, c'est naturellement le contexte économique. Alors quand on parle du contexte économique, nous on pourrait dire, mais ce déficit commercial abyssal, 5% du produit national, ou ce déficit budgétaire qui est phénoménal. C'est un pays qui est passé de plus 200 milliards d'excédents à moins 400 milliards de déficit en l'espace de 2 ans. Ça devrait jouer contre le président. Les précédents historiques, encore une fois, indiquent que les Américains s'intéressent assez peu à ce genre de chiffres. Et on se souvient de la campagne de 84, où Reagan avait aussi des déficits considérables. Et il a été réélu parce que la croissance était revenue et parce que la situation de l'emploi commençait à se rétablir. Le fait est cependant que George Bush aura sur ce plan un bilan très négatif, parce que depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il y a eu 3 ou 4 millions d'emplois aux États-Unis qui ont été détruits. À la fois par ses politiques naturellement, par ses politiques fiscales, mais aussi par la récession qui s'est déclenchée en février 2001.
Et l'Irak, vous parlez pas du tout de l'Irak.
Alors l'Irak justement, l'Irak est un élément très intéressant de cette campagne parce que l'Irak a provoqué une polarisation dans le camp démocrate. Si on parle d'Howard Dean et si on ne parle pas des autres, c'est qu'Howard Dean est pour ainsi dire le seul candidat démocrate, il y en a d'autres mais dont les noms sont inconnus de vos auditeurs et de la plupart des Américains et qui n'ont pour ainsi dire aucune chance, c'est que Howard Dean a construit toute sa campagne autour de cette idée « moi je me suis opposé à la guerre d'Irak depuis le début ». Alors que ses principaux concurrents, qui étaient des personnages de poids dans l'appareil démocrate, ont pensé que cette guerre allait être tellement facile, tellement triomphale, qu'il valait mieux s'y associer au départ. À mesure que l'appréciation de cette guerre est, disons, moins joyeuse que l'espérait George Bush, Dick Cheney...
En dépit de la spectaculaire arrestation de Saddam Hussein.
Voilà, en dépit... Oui, mais alors, la spectaculaire arrestation de Saddam Hussein, c'est quelque chose qui a un effet pendant une semaine ou deux, mais pas jusqu'en novembre. Donc il est possible que s'ils tiennent Ben Laden, ils décident de l'arrêter plutôt en octobre qu'en février. En tout cas, moi, c'est ce que je leur conseillerais s'ils me demandent un avis stratégique sur la manière de conduire.
Ils ne vont pas manquer de faire.
Sunday, the alleged mastermind of the 9/11 attacks captured. Our continuing search for Al Qaeda. The hunt. Daylight Sunday, 7/6 Central on NBC.
Donc Howard Dean a profité à fond de l'opposition qui monte aux États-Unis à l'encontre de cette guerre pour justement devenir le candidat qui semble être en tête des intentions de vote. Le seul problème, c'est qu'il faut quand même qu'on conserve à l'esprit, nous ici, que l'impopularité de Bush, qui est un sentiment assez répandu en Europe et peut-être dans le reste du monde, n'est pas un sentiment aussi répandu aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a 80% des républicains qui adorent Bush, mais qui vraiment l'adorent, et 80% des démocrates qui le détestent. À tel point qu'on va avoir une situation de polarisation politique inhabituelle, parce qu'en règle générale, vous avez toujours dans chaque camp 30% qui flottent ou 40% qui flottent, qui risque de déboucher sur une participation électorale un peu plus forte que la participation habituelle, dont je rappelle à quel point elle est faible, parce qu'on ne le rappelle jamais assez en France. Quand on dit qu'un Américain sur deux ne vote pas, ça ne veut pas dire qu'un Américain sur deux ne vote pas à l'élection présidentielle. Ça veut dire qu'un Américain sur deux ne vote pas le jour de l'élection présidentielle, de l'élection à la Chambre des représentants, de l'élection au Sénat, de l'élection municipale, de l'élection au conseil scolaire, donc de l'élection de toutes les institutions qui, en quelque sorte, gouvernent les États-Unis. C'est comme si toutes les élections, en quelque sorte, étaient rassemblées le même jour en France et que vous aviez à peu près un Français sur deux qui s'en désintéressait. Donc il y a une masse de désintérêt qui est considérable et il est possible que le contexte très polarisé de cette campagne aboutisse à réduire un peu ce taux d'abstention qui était de 50% lors de la dernière élection. D'autant que l'un des facteurs évidemment qui joue pour polariser l'opinion américaine, c'est aussi le souvenir de la précédente élection présidentielle qui s'est jouée à très peu de choses. Et je rappelle que George Bush a été élu avec moins de voix que son concurrent. Donc il a toujours cette image aux yeux des démocrates d'un usurpateur qui a en quelque sorte conquis son élection parce qu'il disposait d'une majorité de suffrages à l'intérieur de la Cour suprême.
Mais le 11 septembre, on a fait un autre homme.
Alors le 11 septembre a beaucoup favorisé George Bush et surtout lui a permis de conduire une politique beaucoup plus radicale, beaucoup plus à droite que celle sur la base de laquelle il avait été élu. Parce qu'évidemment, on ne s'en souvient pas aujourd'hui, mais en 2000, la campagne de Bush était une campagne, y compris sur les problèmes de politique étrangère, qui était une campagne très modérée, où il reprochait précisément à Clinton et à Al Gore, qui était le candidat démocrate à l'époque, leur arrogance diplomatique. Et il disait, il ne faut pas que nous soyons, c'est sa phrase, il ne faut pas que nous soyons une nation arrogante, il faut que nous soyons une nation humble. Et c'était en quelque sorte l'amorce d'une espèce de repli sur les problèmes des États-Unis et de retour à une forme d'isolationnisme. Le 11 septembre a complètement changé l'équation, à tel point qu'on ne peut pas analyser les États-Unis de la même manière avant et après le 11 septembre. Et elle a permis à Bush, en quelque sorte habillé dans le costume du chef de guerre populaire, de mener une politique économique et sociale qui a été particulièrement sauvage et de manière très visible au service des privilégiés, en sachant que ses adversaires ne pourraient pas le critiquer sur cette politique sans qu'il leur réponde « Vous voyez, vous êtes en train d'affaiblir le chef de guerre qui mène la lutte contre le terrorisme ».
The United States of America has the sovereign authority to use force in assuring its own national security.
Not in our name.
You know, war is my last choice.
Not in our name. The pledge to resist. We believe that as a people living in the United States, it is our responsibility to resist the injustices done by our government in our names. Not in our name will you wage endless war. There can be no more deaths, no more transfusions of blood for oil. Not in our name.
Alors on continue avec le diplôme de janvier. On va revenir dans notre petit hexagone avec Martine Bullard, avec un papier du Monde diplomatique de ce mois-ci sur les cités. La gauche et les cités, c'est un papier d'Olivier Masclet qui nous raconte à quel point la gauche en France a loupé sa présence. Enfin, c'est complètement, a disparu des cités.
Oui, ce qui est intéressant chez Olivier Masclet, c'est qu'il montre que c'est pas une question, c'est pas une volonté délibérée. Moi qui me gêne beaucoup, on entend beaucoup, les militants communistes ont quitté les cités. En vérité, c'est pas que les militants communistes ou les militants socialistes ont décidé de partir des cités. C'est que une partie de la population de ces cités s'est paupérisée. Il y a une partie de la population qui est partie dans d'autres endroits. Hein. Dès que les couches sociales qui avaient un travail stable, qui étaient ouvriers qualifiés avec un travail stable et un emploi correctement rémunéré, ils ont décidé, avec la grande campagne notamment en France sur la propriété de son propre logement, ont décidé de partir des cités pour aller acquérir leur logement un peu plus loin en banlieue, un peu plus loin même en province. Hein, on voit maintenant dans les trains tout autour de la grande couronne de Paris, des gens qui viennent travailler à Paris alors qu'ils habitent à 150-200 km. Donc, ce qui est intéressant dans Masclet, c'est de montrer que c'est pas un racisme anti-population arabe, anti-population immigrée, mais bien un concours une politique délibérée des pouvoirs publics, quelquefois des municipalités d'ailleurs, aidées par les municipalités, qui ont créé des ghettos, créé des ghettos. Et il raconte l'histoire, en vérité, dans une ville de la région parisienne, l'histoire des militants issus de l'immigration. Ces militants issus de l'immigration, ces jeunes issus de l'immigration, de la deuxième ou troisième génération, sont des jeunes qui d'abord ont bénéficié encore de ce qu'on a pu appeler dans les années 70.
C'est-à-dire 80, militants culturels, militants sociaux.
Militants culturels, militants sociaux. Ce sont des jeunes enfants issus de l'immigration. Des parents sont arrivés en France dans les années 50, les années 30 et les années 50. Eux-mêmes ont suivi des études. Et c'est encore l'époque où, quand on est fils d'ouvrier, on suit des études et on peut avoir un emploi. C'est-à-dire, c'est l'époque où on est encore un peu intégré. Et ces jeunes des cités qui suivent des études, qui bénéficient de ce qu'on peut encore appeler, à cette époque-là, l'ascenseur social, ces jeunes sont à la fois, ce qui est intéressant, à la fois sont à l'extérieur, ils ont un travail, mais gardent des liens très très profonds avec la cité, qui est leur cité d'origine, dont ils sont fiers, parce qu'ils sont fiers de leurs parents, à juste titre, et ces jeunes militent dans des associations d'alphabétisation, dans des associations d'aide scolaire. Là, en l'occurrence, ils ont beaucoup milité dans un centre culturel municipal qui permettait d'intégrer les enfants plus petits, les frères, les cousins, les enfants beaucoup plus petits. Or, ils s'aperçoivent de quoi, ces jeunes qui militent vraiment beaucoup jusqu'aux années 95-96, ils s'aperçoivent de deux choses. Un, ils militent, mais ils sont invisibles aux yeux des responsables politiques. Pour deux raisons. La première, c'est que, d'une part, ils sont dans des associations qui sont pas dans le courant habituel des organisations syndicales, des organisations politiques. Là, en l'occurrence, ça concerne le Parti communiste qui a plutôt tendance à puiser pour ses responsabilités, pour ses responsables, dans un vivier lié au travail. Or, ces jeunes militent plutôt dans les domaines culturels, associatifs, d'aide aux enfants, donc ils sont complètement invisibles pour ces responsables politiques. Et le deuxième élément qui me semble très intéressant, c'est qu'ils commencent à s'apercevoir que leur travail, qui essaie d'intégrer, ne sert pas grand-chose. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus, par leur propre force, à intégrer des jeunes auxquels on ferme la porte des écoles, on ferme la porte de l'emploi, on ferme la porte d'un logement. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas, avec toute leur volonté, ils n'arrivent plus à empêcher la dégradation de leur cité. Donc ces jeunes, qu'est-ce qu'ils font ? Ben, ils se désengagent complètement du système et laissent les cités d'une certaine manière livrées à elles-mêmes. Ça montre quoi ? Ça montre que quand M. Chirac parle d'intégration, à juste titre, quand il dit la question sociale et la question fondamentale, mais que dans le même temps, l'emploi continue à se dégrader, que ces jeunes n'ont pour tout avenir que des petits boulots, eh bien évidemment, ça ne...
Pour les plus chanceux.
Pour les plus chanceux. Il faut lire, là on n'en a pas, on a fait référence dans le papier, mais il faut lire le livre de Beau et Pialoux, qui s'appelle « Violence urbaine, insécurité sociale ». Il faut lire les témoignages douloureux des jeunes qui viennent dans les missions locales, qui veulent avoir un emploi, auxquels, hélas, les missions locales pour l'emploi ne peuvent proposer au mieux qu'un stage. Un stage pour apprendre à se vendre. Enfin, je sais pas si vous imaginez ce que c'est quand on a 18 ans, 19 ans ou 16 ans qui vient de sortir de l'école, qu'on ne vous propose qu'au mieux un stage où vous allez apprendre à bien vous comporter pour pouvoir éventuellement un jour vous présenter dans un emploi qui sera en vérité un stage de fleuriste ou un stage dans une...
On vous apprend à travailler votre look, votre maintien, votre brushing.
Voilà, votre look, votre maintien, votre brushing, les mots qu'il faut dire, les mots qu'il faut pas dire, les mains qu'il faut laisser en dessous, les yeux qu'il faut baisser. Non seulement c'est insupportable, évidemment que c'est insupportable, mais en plus ça ne débouche sur rien. C'est-à-dire, il faut voir, enfin moi j'étais frappé dans ce livre de Beau et Pialoux, cette souffrance incommensurable des jeunes qui n'arrivent pas à trouver un emploi et auxquels on propose stage sur stage. Alors évidemment, ces jeunes, une partie d'entre eux essaie de se débrouiller comme il peut et une partie des jeunes explose. Je ne suis pas en train d'excuser les explosions. Je suis en train de dire...
L'excuse sociologique, attention à l'excuse sociologique.
Oui, mais on est passé de, soi-disant, une excuse sociologique au refus de regarder la sociologie, au refus de regarder ça. Et on continue à détruire des emplois, on continue à empêcher ces jeunes d'entrer dans la vie active, et après on leur dit, mais c'est pas... On les accuse en même temps de ne pas se mettre dans le moule de la société. Mais ils voudraient bien s'y mettre dans le moule de la société, à condition qu'on leur propose quelque chose. Et ce que montre Masclé, c'est que là où dans les années 50 ou 60, l'emploi, le travail, tissait des chaînes de solidarité entre les habitants des cités, aujourd'hui, ça n'existe plus. Les chaînes de solidarité ont été complètement brisées. Et donc, ces jeunes se retrouvent en difficulté. On ne pourra pas résoudre ces questions-là sans précisément reposer la question sociale et reposer pleinement le problème de l'emploi, le problème de l'école. Parce qu'on nous parle, je vais pas revenir sur un sujet qui est un sujet largement commenté par ailleurs, mais la première chose, c'est d'intégrer par les études, d'intégrer par l'école. Or, on sait bien que dès 8 ans, dès 9 ans, dès 10 ans, on sait qu'une partie des jeunes sont déjà hors du champ, hors du circuit. Je veux dire, c'est une souffrance sociale qui doit être prise en compte, non seulement doit être prise en compte, mais il faut absolument travailler sur cette question de l'emploi pour pouvoir commencer à résoudre les problèmes.
Alors on continue et on va finir avec Bernard Cassen sur la question européenne, sur la constitution européenne. Moi j'ai une question à vous poser, Bernard Cassen. Bientôt, on aura 25 pays qui feront partie de l'Europe, de l'Union européenne, mais savoir dans lequel de ces pays on s'intéresse à l'Europe. J'ai l'impression que ça ne nous intéresse pas, l'Europe ne nous intéresse pas.
Je pense que le seul pays dans lequel il y a un débat sérieux, raisonné sur l'Europe, c'est la France. Vous avez d'autres pays, par exemple l'Espagne, le Portugal, l'Irlande, la Grèce, qui ont été des bénéficiaires nets des fonds communautaires et pour lesquels l'Europe est largement perçue comme un guichet. Donc il n'y a pas de discussion de fond. Quant aux nouveaux pays, aux 10 pays qui vont adhérer, qui vont entrer dans l'Union à partir du 1er mai, eh bien pour eux, le débat n'a pas véritablement eu lieu puisque, en gros, même si cette tendance devient moins majoritaire, l'idée c'est que l'adhésion à l'Europe, c'est conforter la démocratie récemment acquise, et d'autre part, c'est la manne financière. Voilà, c'est en gros cela. Donc le débat européen, et là je fais une exception peut-être pour la Grande-Bretagne, là où il est carrément caricatural, c'est en gros, est-ce que la Commission européenne est communiste ou pas, vous voyez, là, chez les conservateurs. Mais le débat européen n'existe pratiquement pas. Le débat européen sur l'Europe n'existe pratiquement pas, sauf même certainement en France, où les problèmes sont relativement bien posés et où le monde diplomatique aide d'ailleurs, je crois, aussi
bien sûr,
modestement, je vais même vous le dire. Je dois dire que ce qu'a dit Martine Bullard sur la gigantesque fracture sociale qui existe dans les cités, dans les banlieues, eh bien, ça va pas être arrangé par la Constitution européenne qui est en gestation. Vous savez que lors du sommet de Bruxelles du mois de décembre dernier, il n'y a pas eu d'accord pour l'adoption d'un traité constitutionnel européen. Et les fondements du désaccord portaient sur des questions institutionnelles, des questions de répartition des pouvoirs entre les différents États dans la prise de décision européenne. Et là, c'est un véritable rideau de fumée sur l'essentiel. L'essentiel n'est pas là. Je ne dis pas que ceci ne soit pas important, de savoir si l'Espagne ou la Pologne auront un peu plus de voix ou un peu moins de voix. Mais ce que l'on ne nous dit pratiquement jamais dans les commentaires, c'est que ce projet de traité, vise à sanctuariser les politiques libérales successives de l'Union européenne. Dans le traité, il y a 4 parties, et de très loin la plus grosse, la partie 3, c'est le rappel de toutes les politiques ultralibérales de l'Union européenne, qui acquièrent ainsi une sorte de valeur constitutionnelle, encore que l'on puisse discuter de ce mot, puisque ce traité est un traité exactement comme les autres. On l'a baptisé constitution pour, en quelque sorte, lui donner plus de prestige, plus d'aura, et ce faisant, s'il était adopté et signé et ratifié dans ces termes, il équivaudrait, je dirais, à la fin de la politique. Puisque une constitution, normalement, c'est un texte qui permet une certaine souplesse des politiques. Dans le cas d'une constitution, on peut voter blanc ou voter noir, ou avoir des politiques blanches, noires, rouges, ou vertes, ou autres. Mais là, c'est plus le cas. Parce que ce projet de constitution donne non seulement les cadres juridiques, mais également les contenus de ces politiques. On sait si on l'adopte, on ne pourra plus revenir sur le libre-échange, sur la liberté de circulation des capitaux, sur toute une série sur l'indépendance de la Banque Centrale Européenne, enfin, sur les fondements même des politiques économiques et monétaires et donc sociales qui peuvent être menées. Donc, c'est effectivement de ce point de vue-là, un recul extraordinaire, un grand bond en arrière, comme dirait Serge Halimi.
Merci à tous, merci à toute l'équipe du Monde Diplomatique. Technique aujourd'hui Olivier Daligo et Edwin Caron. Répondeur Christophe Imbert. Musique Olienne Guyenne. C'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale. Le numéro du répondeur de la basse Ulysse, il faut-il vous le répéter, c'est le 01 56 40 37 37. On se retrouve demain à 17h pour la basse Ulysse. Je vous laisse pour le journal avec Delphine Simon. Salut!